À plusieurs reprises, nous avons parlé de notre union au Christ par l'Esprit Saint. C'est un thème un peu récurrent, bien sûr. Une union qui se réalise par la foi et par les sacrements de l'initiation. Par la grâce, l'Esprit Saint habite en nous. Nous communions de manière véritable à la vie du Christ. Nous participons mystérieusement à la vie trinitaire. Dès lors, nous participons à la sainteté même de Dieu. Dieu seul est saint, c'est l'attribut de Dieu par excellence. Il est le saint. Et nous participons à sa sainteté. Nous resplendissons de sa sainteté dans la mesure où sa vie nous imprègne. Dans les lettres des apôtres, les chrétiens sont souvent appelés les saints. Je cite par exemple le début de la première lettre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Cette sainteté que nous incarnons, que nous vivons, ce n'est pas seulement une réalité immatérielle, incorporelle, spirituelle. À la suite du Christ, vrai Dieu et vrai homme, c'est toute notre nature humaine qui participe mystérieusement à cette sainteté. Nous sommes littéralement le prolongement du Christ. Dans la même lettre que j'ai citée tout à l'heure, saint Paul rappelle aux Corinthiens: ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Alors nous pouvons poser la question, mais qu'est-ce que signifie être saint pour nous? Qui est appelé à être saint? Eh bien, saint Paul nous dit bien que c'est nous tous, les chrétiens, qui devons vraiment être saints. Dieu nous a élus en Christ dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Au centre du projet de Dieu, il y a le Christ dans lequel Dieu montre son visage. Le mystère caché dans les siècles s'est révélé en plénitude dans le Verbe qui s'est fait chair. Et Paul dit ensuite: Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. En Christ, le Dieu vivant s'est fait proche, visible, touchable. Il s'est fait entendre, afin que chacun puisse puiser de sa plénitude de grâce et de vérité. C'est pourquoi toute l'existence chrétienne connaît une unique loi, la loi suprême de la vie chrétienne. C'est celle que saint Paul exprime souvent, avec la même formule qui revient souvent dans ses lettres. Il nous dit « en Jésus-Christ ». Ce fait d'être en Jésus. La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires. Elle consiste à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements. La mesure de la sainteté, elle est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. La sainteté, c'est être conforme à Jésus, comme le dit saint Paul. Ceux que d'avance Dieu a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Mais la question concrète se pose toujours: comment pouvons-nous parcourir ce chemin de sainteté? Comment pouvons-nous répondre à cet appel à la sainteté? Pouvons-nous le faire avec nos propres forces? La réponse est claire. Une vie sainte n'est pas principalement le fruit de nos efforts, de nos actions, car c'est Dieu, le Dieu trois fois saint, qui nous rend saints. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous anime de l'intérieur. C'est la vie même du Christ ressuscité qui nous est communiquée et qui nous transforme. La sainteté, elle a donc sa racine dans la grâce du baptême, dans le fait d'être greffé dans le mystère pascal du Christ, avec lequel nous est communiqué son esprit, sa vie de ressuscité. Saint Paul souligne de manière très puissante la transformation que cette grâce du baptême accomplit en nous. Saint Paul nous dit « Nous sommes morts avec le Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, vivifiés en lui. Notre destin est indissolublement lié à celui de Jésus. » Mais Dieu respecte aussi notre liberté et demande que nous acceptions ce don et que nous vivions les exigences qu'il comporte. Il demande que nous nous laissions transformer par l'action de l'Esprit Saint, en conformant notre volonté à la volonté de Dieu. Nous revenons justement ce soir sur cette habitation de l'Esprit Saint en nous, quelque chose de concret. Comment notre façon de penser et comment nos actions peuvent-elles devenir la manière de penser et d'agir du Christ et avec le Christ, dans le Christ? Quelle est l'âme de la sainteté? Saint Jean nous dit « Dieu est amour, Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. » Sa charité, c'est Saint Paul qui complète, sa charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité, cette charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout, qui nous fait aimer le prochain à cause de lui, et par conséquent le don premier et le plus nécessaire. Mais pour que la charité, comme un bon grain, grandisse dans l'âme et fructifie, chaque fidèle doit s'ouvrir à la parole de Dieu, et avec l'aide de la grâce, mettre en œuvre sa volonté, participer fréquemment au sacrement, surtout à l'Eucharistie, toutes les actions sacrées à la prière de l'Église, s'appliquer avec persévérance à la prière, à l'abnégation de soi-même, au service actif de ses frères et à l'exercice finalement de toutes les vertus. La charité, qui est le lien de la perfection, qui est la plénitude de la loi chrétienne, cette charité oriente tous les moyens de sanctification. Elle leur donne leur âme et les conduit à leur accomplissement. C'est donc la charité, c'est l'amour envers Dieu et envers le prochain qui marque le véritable disciple du Christ. Telle est la véritable simplicité, la grandeur et la profondeur en même temps de la vie chrétienne. Du fait d'être saint, c'est être enraciné dans cet amour, dans cette charité. C'est pour cela que saint Augustin pouvait faire cette affirmation étonnante, « Dilige et fac quod vis » en latin, « Aime et fais ce que tu veux ». Il expliquait ainsi, « Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. » Qu'en toi se trouve la racine de l'amour, car de cette racine ne peut rien procéder d'autre que le bien. Celui qui est guidé par l'amour, qui vit la charité pleinement, est guidé par Dieu, car Dieu est amour. C'est ce qui donne sa valeur à cette parole, justement, « Aime et fais ce que tu veux ». Cet amour en Dieu, c'est d'abord l'amour incréé, l'amour éternel, c'est l'Esprit Saint qu'on appelle la charité incréée, l'amour qui unit éternellement le Père et le Fils, la charité qui est en nos cœurs par l'action de l'Esprit Saint, C'est le premier effet de l'action de l'Esprit en nous. L'effet principal de la présence de l'Esprit en nous, c'est cet amour, cette charité. En quelque sorte, par cette vertu de la charité, nous aimons Dieu d'un amour divin, de l'amour que l'Esprit Saint met en nous. Ce ne sont pas que nos capacités humaines d'aimer. La charité nous pousse à connaître Dieu, à vivre pour accomplir sa volonté avec une pleine disponibilité, comme l'a fait le Christ. Elle nous pousse à aimer notre prochain pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire à aimer les autres comme Dieu les aime, et à traiter les choses selon la valeur qu'elles ont dans le regard de Dieu, dans le projet de Dieu. La charité est aussi finalement le moteur et la racine de toutes les vertus de notre vie humaine. Elle permet d'orienter tous nos actes vers la gloire de Dieu. Elle devrait être la motivation finalement de tous nos actes, la racine de tous nos actes. La charité est l'essence de la sainteté chrétienne, le lien de la perfection, et elle détermine le degré de sainteté de chaque personne. La hauteur de notre sainteté sera finalement la hauteur de notre amour, de notre charité. Don de Dieu d'abord, elle est aussi un fruit de la vie divine en nous. Car cet amour, justement, il grandit, il se diffuse, il se multiplie, il se répand et nous ouvre toujours à une communion plus large. Et cet amour ne passera jamais. Justement, il se diffuse, il se répand. Il nous fait participer à ce qui est proprement éternel de la vie divine. Alors, en lien avec cette charité qui est la racine de notre vie chrétienne, qui est notre vie de communion avec Dieu, nous avons déjà dit que l'Esprit Saint diffuse aussi deux autres vertus théologales en nous, par lesquelles nous sommes remplis au quotidien et tout au long de notre vie terrestre. Nous allons revenir aussi justement sur la foi et l'espérance, ces deux autres vertus qui nous raccrochent directement à Dieu, qui sont toutes les deux liées à ce monde qui passe, qui sont insérées dans le temps. La foi, d'abord, c'est cette vertu par laquelle nous croyons en Dieu, et nous croyons à tout ce qu'il nous a révélé. Nous croyons à tout ce que l'Église aussi nous propose de croire, parce que Dieu est vérité, qu'il ne peut ni ne veut nous tromper. Par la foi, l'homme s'en remet librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître la volonté de Dieu, à connaître Dieu et à faire sa volonté. Car la foi est toujours en lien avec la charité, elle va se mettre en œuvre dans la charité. Alors la foi est d'abord cette connaissance qui guide toute la vie des enfants de Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible de vivre comme enfant de Dieu. Tout comme sans la connaissance intellectuelle, on ne peut pas vivre la vie humaine. La foi consiste en une adhésion à toutes les vérités que Dieu nous a révélées, à tout ce que Dieu nous a dit de lui-même et de son projet, pour nous, pour les hommes, pour le monde. Non pas parce que ces vérités sont évidentes, justement, ou parce qu'elles sont compréhensibles, mais surtout parce qu'elles sont révélées par Dieu. C'est lui qui est la garantie vraiment de la vérité de ce qu'il nous dit. Lui qui est sagesse suprême et vérité suprême. Mais la foi n'est pas seulement cet ensemble de connaissances que nous tenons pour vraies, puisque ce que l'on croit, c'est que Dieu est notre Créateur et notre Sauveur. La foi présuppose une ouverture totale de l'âme à l'action de Dieu en Christ. La foi, elle inclut un acte de confiance et d'abandon à l'action de Dieu en nous. C'est pour cela que nous disons que nous sommes justifiés par la foi. Parce que par la foi, nous nous ouvrons à l'action par laquelle Dieu nous rend juste par le Christ. La foi est le commencement du salut de l'homme, nous disons, le fondement et la racine de toute justification. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de parvenir à partager le sort de ses enfants. la foi, la grâce ne sont pas produites par nos œuvres, mais une fois que nous recevons la grâce de la foi, bien, il est nécessaire, pour que nous soyons vraiment sauvés, de vivre comme des enfants de Dieu et d'éviter les œuvres qui sont incompatibles avec la vie de la grâce. La vraie foi, la foi vivante, est toujours en rapport avec la charité. Elle s'exprime dans la charité, dans l'amour véritable. La foi grandit et se développe de manière consciente à mesure que nous permettons à la révélation d'imprégner davantage notre vie. Mais elle peut aussi s'étioler, s'affaiblir, lorsque nous ne cultivons pas notre relation avec Dieu. La troisième vertu théologale, l'espérance, en lien toujours avec la charité et la foi, elle est cette vertu qui spécifiquement nous oriente vers l'avenir, qui nous attire vers l'avenir. Par l'espérance, nous désirons, nous attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ. Et nous comptons par l'espérance justement sur l'appui de la grâce, sur l'appui de l'Esprit Saint tout au long de notre vie pour persévérer sur ce chemin de sainteté. L'espérance nous attire vers l'accomplissement de tout ce que nous croyons par la foi. La vertu d'espérance transforme et élève nos désirs les plus profonds. Elle fait de la béatitude que Dieu nous promet l'objet ultime de nos désirs. Elle attire tous nos désirs vers l'accomplissement des promesses de Dieu. L'espérance nous permet de donner à tous les biens et à toutes les activités humaines leur véritable valeur, qui apparaît justement à la lumière de cette destination finale. Alors, puisque nous comptons justement arriver à destination avec la grâce, avec l'aide de Dieu, bien cette vertu d'espérance, elle est très liée à la confiance que Dieu nous donnera toujours son aide pour nous accompagner, pour nous sauver. Car nous savons que nous aurons toujours besoin de son pardon, de sa force pour surmonter les épreuves et les dangers, pour nous accompagner toujours de sa toute-puissance miséricordieuse. Alors après ces éléments sur l'amour, la foi, l'espérance, ces vertus qui imprègnent toute notre vie chrétienne, qui sont spécifiquement chrétiennes, nous voulons encore un peu revenir sur les dons de l'Esprit Saint, que nous avons déjà évoqués en passant, de 2 mois, je crois. Ces dons qui font grandir la sainteté en nous, ces dons de l'Esprit Saint qui sont des dispositions qui nous rendent dociles à suivre les impulsions de l'Esprit Saint, celui qui nous conduit justement sur le chemin de sainteté. Ces dons de l'Esprit Saint remplissaient en plénitude le Christ. Le prophète Isaïe les avait annoncés au sujet du Messie qui devait venir. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de piété, et il le remplira de l'esprit de crainte du Seigneur. Revenons un petit peu sur chacun de ces dons que nous recevons par notre union à Jésus, toujours. Nous les recevons en lui. Le premier don du Saint-Esprit, selon cette liste, c'est le don de sagesse. Il ne s'agit pas simplement de la sagesse humaine, qui est le fruit de la connaissance et de l'expérience. La sagesse, c'est la grâce de voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout voir avec les yeux de Dieu. Et cela dérive bien évidemment du rapport intime que nous avons avec lui, du rapport des enfants avec leur père. Saint Paul nous dit que Jésus, le Fils unique du Père, est lui-même la sagesse du Père, la sagesse incarnée. Cette sagesse à laquelle nous communions, justement par notre union à lui. Nous percevons les choses à partir de Jésus, à partir de l'intimité de la vie trinitaire. Le Saint-Esprit rend le chrétien sage, mais pas au sens où il a une réponse pour tout, qu'il sait tout, mais au sens où le chrétien sait à propos de Dieu. Il sait comment Dieu voit les choses, comment Dieu agit. Il reconnaît quand une chose est de Dieu et quand elle n'est pas de Dieu. Il possède cette sagesse que Dieu donne à nos cœurs. Et cela ne s'apprend pas, c'est un don vraiment de l'Esprit Saint. Le deuxième don de l'Esprit Saint, c'est le don d'intelligence. Alors là non plus, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être pourvus ou dépourvus. Cette intelligence est en revanche une grâce que seul l'Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son projet de salut. C'est vraiment l'intelligence du mystère de Dieu, l'intelligence de la révélation. Lorsque Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, il leur explique que les événements devaient se passer de cette manière pour que s'accomplissent les Écritures, et il leur donne l'esprit justement pour les faire entrer dans cette grâce de l'intelligence. Alors Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. L'apôtre Paul explique aussi ce que fait le don de l'intelligence en nous. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous puissions tout comprendre. Hein. Nous ne pouvons pas encore avoir une pleine connaissance des desseins de Dieu, bien sûr. Tout cela reste en attente de se manifester dans sa plénitude, quand nous serons face à Dieu, avec Dieu. Mais de proche en proche, progressivement, hein, comme le suggère le mot intelligence, nous relions petit à petit les choses. Intus legere, c'est lire à l'intérieur, c'est relier de plus en plus les choses. Ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, relier les choses les unes aux autres pour en comprendre toujours plus profondément le sens avec l'intelligence de Dieu. Alors, il est clair que ce don d'intelligence est étroitement lié à la foi. Quand l'Esprit Saint justement habite notre cœur dans la foi, il fait grandir jour après jour la compréhension de la foi, la compréhension de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre son évangile, comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de ce don d'intelligence justement pour entrer toujours plus profondément dans cette compréhension. Cette intelligence s'étend à tout le mystère de la foi, l'enseignement de l'Église, le sens de la liturgie, le sens des sacrements, de tout ce que nous vivons. Et cette intelligence est finalement ce que nous essayons de cultiver dans nos soirées de catéchèse, hein, l'intelligence dans la foi, hein, creuser cette intelligence. Le troisième don du Saint-Esprit, c'est le don du conseil. Le don de conseil, c'est le don de discernement spirituel. Nous savons combien il est important dans les moments délicats de compter sur des suggestions, sur des conseils de personnes sages qui nous entourent, qui nous aiment, qui nous connaissent. Mais au travers du don du conseil, c'est Dieu lui-même avec son esprit qui illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler, de nous comporter et qui nous permet de comprendre le chemin à suivre. L'Esprit Saint nous rend sensibles à sa voix et oriente nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même temps, il nous conduit à porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus, lui qui est le modèle de notre manière d'agir. C'est lui qui nous met en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil est donc le don par lequel l'Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu. selon la logique de Jésus et de son évangile. De cette manière, l'Esprit nous fait grandir intérieurement, nous fait grandir positivement, nous fait grandir aussi dans la communauté, qui nous aide à ne pas tomber en proie à l'égoïsme et à notre propre manière de voir les choses, une manière individuelle. Alors pour vivre ce don, ce qui est essentiel, c'est bien sûr la prière. C'est par la prière que nous faisons place afin que l'Esprit vienne et nous aide dans ces moments de discernement, que l'Esprit nous conseille sur ce que nous devons faire. Rappelons-nous les paroles de Jésus, justement dans l'évangile de Saint Matthieu. Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou ce que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit qui nous conseille, mais nous devons laisser place à l'Esprit, justement, pour qu'il puisse nous conseiller. Et laisser place, c'est d'abord prier. Prier afin qu'il vienne et nous aide. Ce don de l'Esprit, c'est aussi un don qui a une dimension communautaire. C'est aussi un trésor, pas seulement pour nous, mais pour la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur, il nous parle aussi au travers de la voix et du témoignage de nos frères et sœurs chrétiens. Il nous invite, nous aussi, à aider, à les aider, à les conseiller, aider nos proches, spécialement ceux qui sont sous notre responsabilité, dans leur recherche de Dieu et dans leur recherche de sainteté, dans le projet d'amour de Dieu sur eux. Le don suivant, le don de l'Esprit Saint suivant, c'est la force. Là non plus, ce n'est pas la force humaine, la force physique, musculaire. C'est la force de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui s'exprime dans la grâce. Ce don s'exprime lorsque nous laissons Dieu agir en nous, en reconnaissant notre faiblesse humaine et en nous effaçant devant lui. Ce don nous donne le courage de vivre selon la foi, d'obéir à notre devoir d'État. Il nous donne aussi le courage de témoigner. Ce don de force, c'est celui qui soutient les martyrs dans le don de leur vie. Et nous avons tous à vivre quelque chose de l'ordre du martyr. Pour vivre aujourd'hui, selon l'Évangile, dans un monde qui ne connaît plus Dieu. Le don de la force n'est pas nécessaire uniquement dans certaines occasions héroïques, dans des situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre vie chrétienne, dans l'ordinaire de notre vie chrétienne. Nous avons besoin de cette force pour mener de l'avant notre vie, vie personnelle, notre vie de famille, notre foi. L'apôtre Paul disait « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Le Seigneur ne nous met pas à l'épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il nous donne toujours cette force pour vivre ce qu'il attend de nous. Le cinquième don, c'est le don de science. La science qui vient de l'Esprit-Saint nous conduit à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu, à saisir la relation de Dieu avec chaque créature. Il nous révèle aussi le sens et la finalité de la création. Il nous permet de sentir, de voir Dieu à l'œuvre dans le monde et dans notre vie. Lorsque nos yeux sont illuminés par l'Esprit, il s'ouvre à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans la grandeur de l'univers et nous conduit à découvrir que toute chose nous parle de Dieu, nous parle de Dieu et de son amour. C'est ça la science que nous recevons. Ce don de science nous place en harmonie profonde avec le Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement sur la création. Dans le même temps, ce don nous aide à ne pas tomber dans certaines erreurs, dans des comportements erronés. Une erreur pourrait être de, de nous considérer comme propriétaires de la création, une erreur qui vient assez facilement, à la mesure où en essayant de maîtriser la création, on peut avoir l'impression d'en devenir propriétaire. La création est un don. C'est un don merveilleux que Dieu nous a fait, afin que nous en prenions soin, que nous l'utilisions au profit de tous, toujours avec un grand respect et avec gratitude. Une autre erreur que nous pouvons faire à notre comportement erroné serait la tentation de nous arrêter aux créatures, de nous arrêter à ce monde, comme si ces créatures pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. À travers le don de science, l'esprit nous rappelle toujours cette primauté de Dieu, cette présence de Dieu. Tout prend sens uniquement à partir de Dieu, à partir du Créateur. Le sixième don de l'Esprit Saint, nous arrivons bientôt au bout, c'est le don de piété. Cette piété indique notre appartenance à Dieu, notre lien profond avec lui. Un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous maintient solides en communion avec lui, surtout dans les moments difficiles. Nous sommes vraiment enfants de Dieu. Nous avons avec lui une authentique relation filiale. Ce don de piété filiale nous permet de prier avec ferveur et avec amour, avec joie, avec confiance. Il nous permet de vivre avec tendresse aussi dans la communion de l'Église, cette famille dans laquelle nous sommes insérés. La piété est donc synonyme d'un esprit religieux, d'une intimité avec Dieu, de cette capacité de le prier avec amour et avec simplicité. Si le don de la piété nous fait grandir dans cette relation, dans cette communion avec Dieu, et nous conduit à vivre comme ses enfants, et elle nous aide en même temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à reconnaître les autres comme des frères et sœurs. Le dernier don de l'Esprit-Saint dans la liste, ce n'est pas le dernier en dignité, c'est le don de la crainte de Dieu. C'est en même temps le dernier et le premier, puisque l'Écriture nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cette crainte de Dieu, ce n'est bien sûr pas la peur de Dieu. On a déjà plusieurs fois évoqué le langage biblique. La crainte de Dieu, c'est plutôt le respect, l'adoration devant l'infinie grandeur de Dieu, le saisissement devant sa transcendance. La crainte de Dieu nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour. Notre bien réside dans l'abandon entre ses mains, dans la confiance totale avec humilité et respect. La crainte de Dieu, c'est aussi une alarme face au danger du péché qui veut nous éloigner de Dieu. Cette crainte de Dieu nous inspire une aversion du péché, nous donne le désir de mettre notre conscience en ordre, de nous réconcilier avec Dieu, de rétablir toujours avec lui notre amitié. La crainte de Dieu nous rappelle que tout finit et que nous devons rendre des comptes à Dieu. Alors tous ces dons, nous les avons reçus dans le baptême, dans la confirmation. Demandons au Seigneur de les raviver chaque jour, de faire grandir ceux dont nous avons le plus besoin. Nous, chacun de nous spécifiquement, sur notre propre chemin de sainteté, car chacun de nous est unique. En chacun, l'Esprit Saint fait une œuvre singulière, une œuvre même irremplaçable. Personne n'est à notre place. Ouvrons-nous toujours à l'action de l'Esprit Saint qui transforme notre vie pour devenir des pièces de la grande mosaïque de sainteté que Dieu crée dans l'histoire. Afin que dans cette mosaïque, le visage du Christ resplendisse dans tout son éclat. N'ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de la sainteté, vers la vie avec Dieu. N'ayons pas peur que Dieu nous demande de trop. Ce qu'il ordonne, il le donne. Tout est don. C'est ça qui est essentiel. Laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes, même quand nous nous sentons pauvres, inadéquats, pécheurs, limités. C'est Dieu qui nous transforme selon son amour. C'est lui qui nous conduira vers la sainteté, vers la plénitude de sa joie.